Bonsoir, bienvenue dans cette édition de Tribune de la Presse. Trois thèmes ont été retenus, à savoir processus électoral en République démocratique du Congo, dans une déclaration faite à la presse mardi dernier, les partis et regroupements politiques de l'opposition ont affirmé qu'au-delà du 6 décembre prochain, s'il n'y a pas un nouveau chef d'État élu qui prête serment, l'actuel président de la République deviendra illégitime. Ensuite, une dizaine de ministres du gouvernement central sont invités la semaine prochaine à l'Assemblée nationale à s'expliquer sur la non-exécution de plusieurs recommandations des députés nationaux. Enfin, les professeurs de certaines institutions universitaires telles que l'UNIKIN, l'UPEN et l'IFATIC ont décidé de suspendre la grève entamée depuis le 4 avril dernier. Participe à ce débat, son confrère journaliste, il s'agit de Joachim Diana, il est directeur de publication du journal L'Avenir, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana.
Oui, bonsoir Joachim.
Joël Kadé-Danga, il est rédacteur en chef du journal Impact News, c'est un bi-hebdomadaire qui paraît aussi ici à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadé-Danga.
Bonsoir Guimathieu, bonsoir aux auditeurs.
Isaac Kianga Kaboza, il est journaliste à l'agence des presse ici à Grand Lac, à Kolwezi au Katanga. Bonsoir Isaac Kianga Kaboza.
Bonsoir Guy et bonsoir à tous les auditeurs.
L'opposition réagit au projet des calendriers électoraux. Des ministres invités à l'Assemblée nationale pour s'expliquer et suspension de la grève à l'enseignement supérieur et universitaire. On écoute cette revue de presse et nous présente Céline Couquet.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la déclaration mercredi dernier des partis regroupements politiques de l'opposition sur l'organisation des élections 2011 dans les délais constitutionnels. L'opposition constate l'échec de la majorité. C'est le titre qu'on peut lire à la une du journal La Tempête des Troupes. Le quotidien poursuit, tirant par ailleurs la sonnette d'alarme sur les conséquences graves qui découleront de cette situation. Après le 6 décembre 2011, l'opposition appelle aussi la CENI à élaguer les embûches héritées de la CEI. Pour le palmarès, alors que l'opposition s'en tient au délai constitutionnel, le pasteur Ngoï Mulunda Do Omur, l'initiative du président de la CENI, se trouve ainsi buté au radicalisme de l'opposition, qui ne jure que par le respect du délai constitutionnel. D'une seule voix, l'opposition politique congolaise, toute tendance confondue, a livré sa position. Au-delà du 6 décembre, s'il n'y a pas un nouveau chef d'État élu qui prête serment, l'actuel président de la République deviendra illégitime. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale pour évoquer le sujet et entrer à la présentation du rapport sur l'exécution des recommandations adressées au gouvernement. La tempête de tropique, titre Richard Mouillège, récusé par les députés. En lieu et place du ministre des Relations avec le Parlement, les élus du peuple attendent plutôt les ministres des secteurs cités dans les recommandations pour avoir plus de précisions. 5 ministres convoqués, c'est la une du quotidien Forum des As. Les députés nationaux relancent la machine du contrôle parlementaire. Charlemagne Simba, Janine Mabunda, Anissi Kuzunda, Célestin Bouyou sont attendus mercredi prochain à la représentation nationale. Ces 5 ministres devront s'expliquer sur la non-application d'un certain nombre de recommandations qui leur ont été faites lors des sessions précédentes. Terminons ce journal de journaux par la suspension de la grève dans certaines institutions universitaires telles que IFATIC, IEC et UNIKIN. UNIKIN, grève suspendue, s'exclame le phare. Déclenchée le 4 avril 2011, la grève des professeurs de l'Université de Kinshasa a été suspendue, mais avant de trouver les compromis, une vive tension a régné dans l'amphithéâtre Monseigneur Luc Gillon, où les avis étaient partagés entre les ténors du maintien de la grève et ceux qui préconisaient les efforts fournis par le gouvernement. Les professeurs exigent les paiements réguliers de leur traitement mensuel, l'adoption et la promulgation du statut particulier du professeur d'université avant la fin de cette législature. À défaut de satisfaction à ces revendications, les professeurs se réservent le droit de reprendre la grève.
Merci, Kaline Coupé. Un petit commentaire, Joachim Diana. Vous êtes directeur de publication du journal L'Avenir, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous commentez le travail de la presse de cette semaine, qui fait aussi état de la visite du président de la République du Congo à Kinshasa, Denis Sassou Nguesso?
Tout à fait. La presse essaye d'être le plus exhaustive possible. Je crois que les grands problèmes de la semaine ont été abordés par les confrères, notamment la grève qui avait fait couler beaucoup d'encre de salive. On constate que les professeurs sont revenus à la raison et je pense qu'en toute chose, il faut considérer la fin. C'est important.
Igor Kadé Danga, vous êtes rédacteur en chef pour le journal Impact News, un bi-hebdomadaire qui paraît aussi à Kinshasa. La presse a aussi fait état de la coupure du courant dans la partie ouest de Kinshasa.
Oui, ce sont les problèmes récurrents. Le confrère a dit, dans des conditions très difficiles, la presse essaie quand même de ramasser tous les sujets d'actualité et dans ces conditions-là, il y aura à la population. Parce que le droit à l'information, avoir l'information, c'est aussi un droit fondamental. Et c'est un travail de titan pour lequel les confrères méritent les félicitations.
Isaac Kenda Kabouza, vous êtes journaliste à l'agence de presse Fissia Grand Lac à Kolwezi au Katanga. Quelle est l'information qui a dominé l'actualité à Kolwezi au Katanga?
L'information qui a fait la une à Kolwezi, c'est le séminaire de réflexion sur la vitalisation du secteur éducationnel au Katanga. C'est Madame la ministre provinciale de l'EPST Katanga qui a présidé cet atelier. Cette séance a eu lieu dans la salle Immaculata de la commune de Dilala, où les participants ont tiré des conclusions sur l'école pour tous en 2015, grâce à l'approche des stratégies de planification, la construction de nouvelles infrastructures et le renforcement des structures d'accueil. Madame Thérèse Lukenge, qui a pris la parole pour la circonstance, a souligné l'importance des statistiques scolaires fiables, la recherche des voies et moyens pour pallier aux déficits pour lancer un défi à la scolarisation. Notons à ces assises auxquelles ont pris part les chefs des divisions provinciales de l'EPC au Katanga, les chefs d'antenne de la planification et statistiques scolaires, les directeurs provinciaux de l'Institut national de statistique, sans oublier les inspecteurs principaux provinciaux.
Merci. Merci. Avant d'aborder le débat de ce soir, nous allons réagir à cette triste nouvelle. Comme vous le savez, Radio Kapi a perdu un de ses brillants journalistes, Georges Kamudova, 35 ans, a trouvé la mort la nuit du samedi dans un accident de circulation survenu sur le boulevard des Fins de Juin aux environs des 21h30 ici à Kinshasa. Selon des témoins, Kamudova était à bord d'un taxi qui les ramenait, lui et son frère Eric Mwangé, chez lui à domicile. La voiture a été percutée par un autre véhicule roulant à une très grande vitesse. Les passagers du taxi, parmi lesquels notre collègue et son grand-père, sont morts sur le coup. Joël Kadé Danga, vous avez personnellement connu Georges Kamudova. Et quel souvenir vous gardez de lui?
J'ai eu du mal du matin d'entrer dans vos installations aujourd'hui parce qu'il ne pouvait pas arriver un moment quand vous m'invitez ici. Imaginez y entrer sans appeler Georges, sans voir Georges. C'est un garçon courageux, studieux. J'ai connu Georges depuis 2002. Quand je après mes études universitaires, j'ai été recruté à la chaîne où il était secrétaire général. On s'est radio et télévision. En 2004, je l'ai pris par la radio Okapi. C'est moi qui l'ai remplacé à son poste de secrétaire général. Grâce à Otu Emaloa qui avait trouvé à l'époque, qui m'avait renouvelé la confiance. C'est une peine pour nous, en tant d'abord que confrère, mais Georges c'était plus qu'un frère pour moi parce que c'est parmi les 3-4 personnes. Vous le savez, qui se retrouvait à mes côtés dans des moments difficiles comme dans des moments de joie. Donc, c'est quelqu'un d'irremplaçable, que ce soit ici, chez vous à Radio Okapi ou dans ma famille personnellement. En tout cas, c'était un choc.
Merci Joachim Diana. Le véhicule qui s'est trouvé Georges et Kamudova a été percuté par un autre véhicule et ceci soulève la question de l'attitude des conducteurs de véhicules sur le boulevard du Fin de Juin et sur les routes de Kinshasa. Comment vous commentez cela?
Écoutez, arracher quelqu'un à l'âge de Georges, pratiquement à la fleur de l'âge, doit faire réfléchir tous ces chauffards généralement
des sujets, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas du racisme, mais généralement, lorsque vous voyez des sujets libanais et autres roulés sur cette route, moi je me dis, dès qu'il est 21h, la route est devenue un mouroir. Donc ils roulent à tombeau ouvert, ils ne tiennent compte de rien, ils se donnent une priorité, je ne sais pas qui leur vient. Et ce n'est pas la première fois. Heureusement, ils ont pu récupérer avec eux-mêmes. Et ils ont été aussi endommagés. Mais généralement, lorsqu'ils écrasent comme ça, en passant, il m'arrive, souvent je termine tard, et de rouler, de voir les voitures écraser, qu'elles sont parties partout. C'est donc des situations qui sont connues. Pourquoi on ne les dénonce pas?
C'est regrettable. Nous avons eu à l'écrire au journal pour dénoncer le comportement des chauffeurs. Et des bonbons. Généralement, tous ces sujets qui se nomment les Moyen-Orientaux, on les appelle libanais, mais généralement aussi, ce sont des sujets qui roulent à tombeau ouvert comme s'ils se retrouvaient, je ne sais pas ce que. Mais vous voyez que pour le moment, ils croient que ce sont eux qui pouvaient être. C'est lui qui a percuté Georges et ses amis, lui aussi, il en est mort après. Donc vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de raison, nous n'avons pas besoin de kamikazes. Ici, s'il y a des kamikazes ailleurs, qui font le terrorisme, mais ici, chez nous, les gens roulent paisiblement sur le boulevard. On l'a arrangé pour que les gens y trouvent plaisir, c'est pas pour que les gens versent des larmes, comme il est devenu comme ça chaque jour à partir de 21h.
Isaac Tekianda Kabouza, vous avez sûrement connu Jean-Claude Mdouva. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort?
En tout cas, c'est vraiment regrettable. Quand j'ai appris la mort de notre confrère Georges Kamudova, j'ai eu froid. En tout cas, c'est un garçon très bien. Je l'ai connu au niveau du réseau de Facebook. Avant, d'abord, il était à Lubumbashi. Et même avant de se rendre à Kinshasa, nos informations nous les envoyons à partir de lui, et à son tour, il les envoyait au niveau de la radio Capi. C'est un garçon très bien. Moi, ce qui m'a marqué, c'est son sourire. Donc, c'est un garçon très calme, qui aime la paix, qui aime rire avec tout le monde. En tout cas, j'ai gardé ce souvenir. Ça m'a très marqué. Et le rôle de notre police de circulation routière.
Donc,
elle ne fait pas son travail. Elle ne fait pas son travail. Parce qu'ici, chez nous, la police même travaille jusqu'à 21h. Parce que la police devait contrôler ce problème-là.
Ok, merci. Merci, notre premier thème de ce soir, processus électoral en République démocratique du Congo. Dans une déclaration faite à la presse mardi dernier, les partis et regroupements politiques de l'opposition ont affirmé qu'au-delà du 6 décembre prochain, s'il n'y a pas un nouveau chef d'État élu qui prête serment, l'actuel président de la République deviendra illégitime. C'est la réponse de l'opposition à la CENI au sujet de la proposition du calendrier électoral. L'opposition politique toute tendance confondue livre sa position sur le processus électoral de 2011 en République démocratique du Congo. Au-delà d'ici décembre prochain, dit-elle, s'il n'y a pas un nouveau chef d'État élu qui prête serment, l'actuel président de la République deviendra illégitime. Dans une déclaration faite à la presse mardi au siège du MFC, les partis et regroupements politiques ont présenté leurs observations transmises à la CENI à la suite du projet de calendrier électoral. Gilbert Chiakwama, président du groupe parlementaire des chrétiens démocrates, le dit à Jeff Ngoï.
Si au 6 décembre, le chef de l'État élu de la République démocratique du Congo n'a pas prêté serment, dès le lendemain matin, l'actuel chef de l'État devient illégitime et nous en tirons toutes les conséquences que cela implique. Nous sommes les premières victimes du fait que la CENI ait totalement ignoré les élections locales, car les élections locales étaient une condition que nous avions posée pour asseoir une démocratie à la base. Or, le programme inachevé du processus de 2016 n'a pas été poursuivi par la CENI. C'est ce que nous reprochons fondamentalement à l'ancien président de la CEI, d'une part. D'une part, à qui profite le crime? Mais ça profite à la majorité au pouvoir, car par le fait qu'on n'ait pas installé, qu'on n'a pas fait organiser les élections locales, la majorité au pouvoir nomme toute la petite territoriale au niveau des secteurs et au niveau des territoires et même des districts qui ont été supprimés par la Constitution et ils continuent à maintenir cela au pouvoir, bien sûr, en profiter.
Nous allons lire les unes de certains journaux. Nous avons le quotidien Le Palmarès qui dit sans le soutien des Tshisekedi, du MLC et de l'UMC, publication du calendrier électoral, Ngoï Moumounda hésite encore. Nous avons le quotidien Le Potentiel qui dit calendrier électoral, difficile compromis. Nous avons encore le quotidien Le Palmarès qui dit alors que l'opposition s'en tient au délai constitutionnel, élection apaisée en République démocratique du Congo, le pasteur Ngoï Moumounda, dos au mur. Nous avons le quotidien La Tempête des Topiques qui dit organisation des élections 2011 dans les délais constitutionnels, l'opposition constate l'échec de la majorité. Enfin, nous avons le quotidien L'Avenir qui dit incapable de se donner un candidat unique, suite en avant, l'opposition s'unit pour boycotter les élections. Diana, Joachim Diana, L'Avenir c'est votre journal. Vous pensez que ceci est une façon pour l'opposition de boycotter les élections de 2011?
Écoutez, sur ce sujet, je pense que nous devons être sérieux. L'opposition se veut défenseur de la Constitution. Mais tout simplement, dans quel chemin elle veut nous amener? Puisqu'on n'a pas respecté la Constitution, sortons de la Constitution. Exactement, c'est ça. C'est ce que l'opposition veut dire. On n'a pas respecté la Constitution. Le président est illégitime, et alors on va faire quoi? Mais il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de la logique. Si l'Assemblée n'a pas un président qui a prêté serment, donc le président actuel est devenu illégitime, et la Constitution prévoit quoi? Puisqu'il faut rester dans la Constitution, il faut respecter la Constitution jusqu'au bout, qu'est-ce que prévoit la Constitution dans le cas où les élections ne se tiennent pas le 6 décembre? On ne doit pas prendre ce pays pour un petit jouet. Et nous venons de suivre, par exemple, la déclaration de Gilbert Diokomati, un homme intelligent. Mais vous voyez, est-ce qu'il ne peut pas approfondir la réflexion sur le fait que le 6 décembre, s'il n'y a pas un président, et on va payer le surpris, mais tout, il fait un mélange des genres, quand il parle de la CENI qui n'a pas organisé les locales, qui n'a pas... Est-ce qu'aujourd'hui, la revendication, c'est quoi? Pour quelle raison on doit sortir de la Constitution? On veut nous ramener au schéma d'avant des rois intercongolais, où il n'y avait pas de aucun pouvoir n'était légitime, et se disait personne n'a gagné les élections, et ainsi de suite, on allait de combine politique en combine politique. Pour le moment, je pense, pour tout homme sérieux, il se dit, nous devons respecter la Constitution, on doit la respecter jusqu'au bout, même s'il faut faire un mois de retard pour organiser l'élection, mais il faut aller jusqu'au bout du respect de la Constitution en organisant les élections. Parce qu'il n'y a pas une autre façon de mettre en place un gouvernement et de diriger un parlement qui est d'aller aux élections.
Joël Kadedanga, par cette déclaration, l'opposition n'est-elle pas en train d'interpeller l'opinion sur le danger qui guette le processus électoral, hein, avec ce qui se constate sur ce terrain? Vous voyez, il y a une certaine lenteur dans les opérations de révision du fichier électoral. Est-ce que ce n'est pas une interpellation que l'opposition est en train de faire?
Une interpellation, oui, mais non d'autre part parce que la classe politique congolaise, je l'ai dit, je pense, une fois ici dans votre studio, que ce soit les membres de l'opposition, de la majorité, tous joués aux prolongations. Cela a été lisible il y a de cela 3 ans, parce que les lois fondamentales relatives au processus électoral ont été retardées dans des discussions byzantines, dans des querelles infantiles, des querelles puériles, entre les membres de l'opposition au sein du Parlement qui a été élu, et vous avez vu qu'ils ont tourné les pouces au lieu d'aborder les questions. Mais tous savaient qu'il y a quoi, comme les autres. Ils savaient qu'on allait organiser les élections. Où est-ce qu'ils étaient pour ne pas prioriser, n'est-ce pas, la loi électorale, qu'est-ce que je dis, la loi portant création, organisation, fonctionnement de la CENI. Mais quand est-ce que cette loi est sortie? Et pour mettre en place le bureau de la CENI, combien de temps ont-ils pris?
C'est la majorité qui
est à la base. Non, il n'y a pas que la majorité.
Dans la mise en place de ce bureau.
Non, écoutez, il faudrait que chacun, il faudrait qu'on soit responsable des actes que nous avons tous posés. Que ce soit du côté de la majorité, du côté de l'opposition, tous ont vu leurs intérêts. Et parce que si on va au-delà du 6 décembre, bon, cette question de légitimité, oui, mais la légalité, je crois, Diana n'a pas voulu le dire. C'est ce qu'il dit qu'on s'en tienne à la Constitution, ça veut dire, ce qui est vrai que le chef de l'État aura perdu la légitimité au-delà du 6 décembre, mais il gardera sa légalité suivant l'article qui précise que le chef de l'État en fonction restera jusqu'à la remise des reprises avec les futurs présidents de la République. Dans ce cas, c'est la majorité qui va gagner. Et même eux, les députés qui sont au pouvoir, pourraient aussi gagner parce que le parlement restera là, mais
le chef de l'État aura difficile, n'est-ce pas, à avoir un gouvernement qui pourra lui permettre, peut-être quand on va aller au-delà, peut-être il va aller avec ce gouvernement et ça lui sera difficile d'aborder d'autres questions. Mais le problème avec la classe politique congolaise, toute jouée en prolongation, personne, alors que nous sommes, ne doit jeter la pierre sur personne parce qu'eux savaient où est-ce qu'ils nous amenaient.
Isaac Tianda Kabosa, donc les responsabilités sont partagées. On est comble la faute et à l'opposition et à la majorité. Allô Isaac. Allô Isaac. Allô Isaac. Apparemment, nous avons perdu Isaac Kianda Kabosa. Je repose la question à Joachim Diana. Donc, on est contre la force et à l'opposition et à la majorité.
Oui, tout à fait. Même lorsque vous entendez l'honorable Chopin m'a parlé des élections locales, parce que vous savez que toutes ces entités locales-là, il n'y a pas encore la loi qui doit les déterminer, les délimiter. Cette loi n'existe pas encore au niveau de l'Assemblée nationale. Mais les gens disent qu'on organise les élections locales, dans des entités qui ne sont pas encore présidées ni délimitées par la loi. C'est ça, c'est de l'aventure.
À vous suivre, on comprend par là que le blocage se situe au sein de l'Assemblée nationale qui n'a pas adopté les lois qui étaient nécessaires à toutes ces élections-là à temps.
Et tout à fait, l'Assemblée nationale a sa part de responsabilité. Au niveau du gouvernement, le gouvernement a sa part de responsabilité en ce qui concerne la disponibilisation des moyens. Et la communauté internationale a aussi sa responsabilité dans la mesure où, jusqu'aujourd'hui, en ce qui concerne les contributions pour les élections, au niveau de la communauté internationale, il y a des partenaires qui s'étaient engagés, qui se sont tout simplement désengagés à cause de la crise qu'il y a dans leur pays, crise financière. Il y en a d'autres qui continuent à promettre. On ne peut pas organiser les élections avec des promesses. Tout cela constitue des vrais problèmes. Quand le pasteur, président de la CENI, n'étant même pas obligé par la loi d'aller vers les comptes, est allé expliquer. Mais voilà, et les autres saisissent cette occasion pour vous dire, vous êtes venus par nous, alors nous allons vous dire que vous devez à tout prix tenir compte de ce que nous voulons. Il faut à tout moment, à tout prix organiser les élections dans le délai, que vous ayez les moyens ou pas. Cette façon de mettre les élections, et souvent on mêle, l'opposition mêle l'organisation des élections avec le gouvernement. Le gouvernement, ça passe, c'est pour donner le gouvernement. Mais l'organisation des élections, la commission électorale, elle est indépendante. Donc elle s'organise en dehors de l'opposition et du pouvoir. Donc on ne doit pas mettre les défaillances de la CENI sur les dos du gouvernement ou de l'opposition.
La réalisation me signale que Isaac Kenda Kabosa est de nouveau en ligne. Isaac Kenda Kabosa.
Le président
de la CENI, le pasteur Ngoyi Mulunga, a déclaré que les élections pourraient avoir lieu dans les délais constitutionnels si la loi électorale était promulguée avant les mois d'avril. Et pensez-vous qu'avant la fin de ces mois, cette loi sera adoptée et promulguée par les chefs de l'État?
Je ne crois pas. Je sais que c'est le Parlement au niveau national qui détient la clé des élections en 2011. Si nous remarquons bien, aujourd'hui, les députés n'ont pas ce temps-là de rester au Parlement pour, disons, élaborer les lois. Et ce n'est pas la CENI, c'est le Parlement qui prend le pas. Jusqu'ici, les députés ne veulent pas voter la loi électorale. Ils ont peur de la sanction de la population.
Oui.
Car s'il n'y a pas des élections, tous vont garder leur vote ou alors ils vont se partager les forces dans le gouvernement sous prétexte de réconciliation nationale. Alors, le peuple a besoin des élections dans les délais constitutionnels, parce que la souffrance a ses limites. Quand il existe des règles de jeu, il faut savoir les respecter. C'est cela aussi la démocratie. La démocratie. Parce que à propos d'abord de l'exigence là de l'opposition. La Constitution a prévu une garantie juridique. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de problème politique.
Merci.
L'article 70 de la Constitution dispose que le chef de l'État demeure en fonction jusqu'à l'installation du nouvel élu. Cela signifie que les élections doivent avoir lieu avant cette date.
Merci.
Donc, le chef de l'État en fonction, continue à exercer ses attributions en attendant l'installation du nouveau chef de l'État. Je crois qu'il n'y a pas de problème, c'est l'opposition qui veut aller vite en besogne.
Merci, Joël Kadé-Danga. Une certaine opinion pense que l'opposition, en faisant ce genre de déclarations, prépare le lit à une éventuelle transition.
Oui, c'est ce que je dis tantôt, puisque on n'avait pas bien suivi, c'est ce que je dis. Tous préparaient la prolongation, et tous savaient que, parce que s'ils vont en prolongation, certainement, qu'on va se retrouver dans une situation telle d'avant. Sun City, comme l'a dit tantôt le confrère, ils vont se retrouver autour des conciliambules pour se partager le pouvoir. Et pendant toute cette période-là, c'est la population qui va sortir perdante. Pourquoi ? Parce qu'elle ne va pas se retrouver. Les gens qui sont au pouvoir, et vous les avez vus aujourd'hui, ils commencent même à mettre les bâtons dans les roues des autres. Ceux dont les élections avaient été supportées, dont la caution avait été payée par leur parti politique, commencent à exiger aujourd'hui, par exemple, que la caution pour la députation nationale soit élevée à 5 000 $. J'ai causé avec certains amis qui sont députés. Donc, ça veut dire que des gens veulent rester là, seuls et eux seuls. Ils n'ont même pas traité les questions relatives aux souffrances de leurs électeurs. Ils n'ont même pas été dans leur pièce électoraux, mais c'est aujourd'hui qu'ils boycottent les plénières tout simplement parce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est rester au pouvoir. Et pour cela, ils sont en train de préparer le lit, comme vous l'avez dit, à des prolongations de telle sorte qu'ils continuent à jouir seul du gâteau sans le peuple qui est meurtri par la souffrance.
Merci, notre deuxième thème de ce soir, une dizaine de ministres du gouvernement central sont invités la semaine prochaine à l'Assemblée nationale à s'expliquer sur la non-exécution de plusieurs recommandations des députés nationaux. L'Assemblée nationale a jugé recevable le rapport général d'évaluation des recommandations adressées au gouvernement par les députés, rapport reprenant l'aboutissement des recommandations soumises au gouvernement pour divers dossiers depuis 2016. Dans sa présentation, le ministre en charge des relations avec le Parlement, a estimé mercredi que l'évaluation est satisfaisante, bien que l'exécution des recommandations ne soit pas totale au niveau du gouvernement. D'où la motion du député Denis Kambay invitant une dizaine de ministres à répondre aux questions restées incomplètes ou sans réponse. Mimi Ngumba.
C'est en principe à partir de mercredi prochain que la dizaine de ministres va se présenter tour à tour devant l'Assemblée plénière pour expliquer la non-exécution juste à ce jour de plusieurs recommandations des députés nationaux. Cela, conformément à l'article 93 de la Constitution. D'après les députés Kambay, auteur de la motion, cette situation de non-exécution est à la base de plusieurs méfaits qu'on déplore aujourd'hui dans différents secteurs de la société. Denis Kambay.
Que chaque ministre vienne répondre par rapport à la non-exécution des recommandations. Je donne aujourd'hui l'exemple de la SONAS avec le ministère des Finances. La SONAS qui a connu une condamnation par négligence du ministère des Finances pour n'avoir pas exécuté la recommandation de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'université de Kinshasa, notre alma mater, tout ce qui se passe là-bas, c'est la problématique de non-exécution des recommandations de l'Assemblée nationale.
Les préoccupations dont il est question dans ce rapport résultent soit du contrôle parlementaire, soit des questions orales adressées à certains membres du gouvernement sur des dossiers tels que Bundudia Congo, Mbororo, spoliation de terres et maisons de l'État. La situation de l'université de Kinshasa, le cas Régis des eaux et SNEL font également partie de la série. À cela, il faut ajouter la question des denrées alimentaires avariées de Boma. Notez enfin que cette initiative des députés vise à emmener les gouvernements à améliorer notamment la gestion de la chose publique.
Isaac Kianda Kabouza, des recommandations qui sont formulées au gouvernement mais qui ne sont pas exécutées depuis 2007. Comment vous analysez cela?
Ce que je peux dire, c'est un dysfonctionnement qui résulte d'abord, des membres du gouvernement et même de l'Assemblée nationale. Je propose qu'en cette fin de la première législature, que ça ne soit pas l'occasion pour que les députés aveuglent la population en voulant faire voir qu'eux travaillent plus que les autres. Mais je voudrais que les ministres améliore leur façon de travailler en vue de satisfaire le social de la population. Espérons que ça ne sera pas une distraction.
Joachim Diana, ces recommandations découlent des rapports des vacances parlementaires et rapports faisant état des problèmes contre lesquels sont lutées les populations. Alors, lorsque l'exécutif semble rester passif face aux problèmes qui touchent à la vie de sa population, peut-on attribuer cela à quoi? Aux moyens ou à un manque de volonté?
Écoutez, d'abord, il faut que les députés et le gouvernement sache que nous sommes dans un système démocratique avec la séparation du pouvoir. Ce qui veut dire que les députés ne doivent pas avoir l'impression que leurs recommandations sont obligatoirement uniquement applicables. Donc, lorsqu'ils font une recommandation au gouvernement, il revient au gouvernement de la programmer, de voir l'effet de programmer. Il n'est pas dit que le gouvernement doit tout de suite appliquer, comme si le maître a demandé. Non, l'Assemblée nationale n'a pas d'injonction à donner au gouvernement. L'Assemblée nationale fait des recommandations, quitte à celui qui a reçu les recommandations, de les appliquer conformément aux moyens et aux programmes. Et d'ailleurs, supposons aujourd'hui que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de faire quelque chose en cours de l'année qui n'a pas été prévu dans le budget. Il voudrait que le gouvernement fasse ça avec quels moyens? Il faudrait peut-être que le gouvernement, les membres du gouvernement, qui iront expliquer, et à partir de mercredi, fassent démontrer ça, que par quoi c'est que les députés demandent? Eux-mêmes ne le prévoient pas dans le budget qu'ils donnent. Aujourd'hui,
c'est un problème plutôt des moyens et non des
moyens. Tout à fait. Les gens, surtout que nous allons, comme l'a dit le conseil de Colosi, on va vers la fin de l'année, on veut tirer la couverture de son côté. Mais on oublie que tout le monde le dit ici, qu'il y a un budget de misère dans ce pays. Le budget est voté au Parlement. Un budget maigre, on l'a plus d'une fois dit dans ce studio, c'est un budget maigre qui vient du Parlement, qu'on donne au gouvernement, un budget qui ne permet même pas, qui n'est pas un budget d'une petite municipalité dans d'autres pays, je le dis plus d'une fois, et qui n'égale même pas le budget des clubs de Chelsea, de Donc, l'Assemblée nationale voudrait qu'avec ce budget-là, qu'on puisse appliquer, que nous on laisse tous les programmes que le gouvernement avait pour appliquer celui que veut l'Assemblée nationale. Ce n'est pas comme ça que je veux. Mais aussi, il revient au gouvernement de planifier ces recommandations qui viennent et de les faire savoir que voilà, nous avons ceci est programmé, ceci dans 3 ans, dans 4 ans, mais que les gens sachent qu'on en a quand même tenu compte.
Et Joël Kadé Danga, ceci pourrait constituer un argumentaire pour les parlementaires hein, qui pourraient dire qu'ils ont fait leur travail et que les blocages se situeraient au niveau du gouvernement.
Donc pour une fois, je ne suis pas en accord avec Diana sur un point en tout cas. Quand il dit que nous sommes dans un système de séparation du pouvoir, c'est vrai. Mais aussi dans ce système de séparation du pouvoir, il y a la collaboration du pouvoir. Et c'est en cela qu'en ce qui concerne les missions dévolues à l'Assemblée nationale, il y a notamment la mission législative et celle de contrôle. Et c'est en ce qui concerne le contrôle, il y a les recommandations et non les injonctions. Et les recommandations, là, ne concernent pas les problèmes des finances. C'est un problème de volonté dans le chef du gouvernement qui a d'autres priorités que celles que donne l'Assemblée nationale. Sans cela, comment est-ce qu'on peut interpeller un ministre sans que l'on donne les recommandations? Et le ministre accepte, parce que selon le rapport présenté par Muyej Mangez-Mons, ministre en relation avec le Parlement, l'Assemblée a formulé 496 recommandations en rapport avec 27 dossiers, dont 219 recommandations exécutées, 174 en cours d'exécution, soit 74% du taux d'exécution. Mais il faudrait que l'on regarde bien. Mais quand vous regardez notre gouvernement, bon, c'est un peu de la mascarade. Mais c'est que je ne voudrais pas non plus accepter dans le chef des députés ce système ici de la théâtralisation de la scène politique congolaise. Quand on invite les ministres, pour des raisons inavouées qui sont connues entre eux, les députés et les ministres, pour juste saupoudrer la population au moment où ils savent à quoi aboutissent leurs
questions. Par exemple, dans les cadres de leur mission, c'est ce qui consiste à contrôler les
exactement, mais on connaît comment cela finit, parce que c'est du théâtre, parce qu'on connaît comment ils interpellent, et on connaît comment cela finit, et on connaît de quelle manière, n'est-ce pas, ils trouvent les compromis, et les compromis là d'une manière qui n'est pas à encourager et qui n'est pas non plus à dire du haut de votre micro ici. C'est juste pour vous dire
qu'on doit laisser les parlementaires donner les recommandations au gouvernement, et il revient au gouvernement, il a dit qu'il mette en application les recommandations des élus du peuple, parce que ce sont eux qui sont supposés, qui sont censés être très proches de la population, et lorsqu'ils doivent donner les recommandations comme cela, il faudrait que le gouvernement qui est chargé d'exécuter l'exécute. On ne doit pas donner les raisons de finances. Ce n'est pas un problème de finances, c'est un problème de manque de volonté dans le chef de la plupart de nos ministres qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de programme réel de ce qu'ils doivent entreprendre et faire en tant que chef de département ministériel.
Isaac Kanda Kaboza, c'est un problème de manque de volonté. C'est votre avis? Allô, Isaac Kanda Kaboza. Bien là, Joël Kadendanga dit plutôt que c'est plutôt un problème de manque de volonté. Vous partagez cet avis?
Je ne peux pas partager un tel avis. Et d'ailleurs, c'est ça l'avis qui motive et l'opposition et le Parlement. Ils estiment qu'il suffit que le gouvernement veuille et qu'il le fait. Non. Il y a tout un programme de moyens. Et supposons, je vais donner un petit exemple. Le gouvernement a prévu, par exemple, pour Kolwezi, on va construire une route. Le député, pendant qu'il va, il constate que ce qu'il faut à Kolwezi aujourd'hui, ce sont les champs de maïs. Alors, qu'est-ce que le parlementaire voudra que le gouvernement fasse, et le champ de maïs et la route, parce que il le faut. Mais le gouvernement, bien compte tenu des moyens, j'ai programmé ça. Le champ de maïs, ça sera peut-être à l'écart, mais ici, donc c'est aussi un problème de programme. Lorsqu'on a peu de moyens, tel que le moyen dans le budget du gouvernement, c'est qu'il faut une forte planification. Si vous faites tout à la fois, vous risquez de ne rien faire du tout, de faire du saupoudrage. Donc, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de moyens, une question de programmation. Ce n'est pas une question de volonté, il ne suffit pas de vouloir. En matière de développement ou de quoi, le vouloir, c'est à partir, la volonté, elle est là. Lorsqu'on lance, par exemple, les 5 chantiers, c'est l'expression d'une volonté. Et il faut maintenant avoir les moyens pour appliquer cette volonté sur le terrain. Il ne suffit pas de vouloir pour que ça se réalise.
La réalisation signale que nous avons de nouveau notre ami Isaac Kekianda Kaboza. Isaac Kekianda Kaboza, l'invitation de ces ministres à l'Assemblée nationale, à votre avis, pourrait changer quoi?
Je crois que ça peut bien changer, parce que les loups, entre eux, ne se mangent pas. Parce que ce sont les gens d'une même catégorie. Alors, c'est pour cela qu'ils craignent pas pour sanctionner les ministres. Parce que vous voyez que depuis 2007, et à la fin du mandat du président de la République, on commence à faire le théâtre pour convoquer ces gens au niveau de l'Assemblée. Je crois que ça, c'est pour montrer à la population que les députés sont en train de travailler. Ils sont complices avec ces ministres.
Merci. Nous passons à notre dernier thème de ce soir. Le professeur de certaines institutions universitaires, telles que l'UNIKIN, l'UTEN et l'IFASTIC, ont décidé de suspendre la grève entamée le 4 avril dernier à l'IFASTIC. Les professeurs ont décidé de suspendre la grève entamée par les universités et instituts supérieurs. Décision prise mardi par l'association des professeurs de cette institution à l'issue de son assemblée générale extraordinaire. Selon le président de cette association, Denis Nsokatu, le gouvernement a répondu positivement à l'une de leurs revendications. Il s'agit de la paye de leurs arriérés de 4 mois de primes. Le président de cette association précise cependant que la grève peut reprendre à tout moment si l'exécutif ne résout pas les problèmes de leur statut. Denis Vokatou est au micro de Suzanne Ngobo.
Nous avons reçu une réponse du gouvernement. Après examen de cette réponse, le professeur de l'IFASTIC décide de suspendre, j'insiste sur le mot, suspendre la grève, mais avec beaucoup de conditionnalités. Le point le plus culminant pour nous, c'est le statut du professeur de l'université, parce que ça, c'est la gestion de notre carrière. Et nous constatons qu'à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Mais pour montrer notre bonne foi, compte tenu de la réponse que nous venons d'obtenir, le paiement des arriérés, nous suspendons la grève. Mais nous nous réservons le droit de reprendre la grève si le statut du conseil d'université n'est pas examiné et promulgué jusqu'à la fin de la législature.
Joël Kadendanga, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal Impact News, c'est un billet hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Le professeur suspend la grève, comment vous analysez cette décision?
Une bonne décision, parce que eux savent que dans leur problème avec le gouvernement, c'est l'étudiant qui perd et c'est le parent qui perd. Il faudrait à un moment donné bien que le gouvernement doit considérer toutes les doléances du personnel enseignant de l'université, il faudrait qu'à un moment donné, que les professeurs savent qu'ils ont le devoir de former. Voyez, le niveau d'études à l'université est toujours décroissant. Il est en train toujours de baisser, mais au fur et à mesure que les années avancent, ça cause des choses comme cela. Et pourtant, ces professeurs, nos professeurs d'aujourd'hui, avaient étudié presque dans les très généraux. Pour la plupart de ceux qui sont professeurs ordinaires et consorts, qui sont des docteurs, ils avaient étudié pendant qu'eux avaient la bourse. Pendant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bourse, les parents sont obligés de les prendre en charge, et il suffit qu'il y ait retard dans le cadre du gouvernement. Il y a bien sûr des problèmes aussi énormes, et eux reculent. Et lorsqu'ils reculent, qui fait? C'est l'étudiant. Parce que lorsqu'il y a cette interruption brutale, c'est l'étudiant qui perd. Et on va arriver à la fin de l'année académique, certains cours ne seront pas finis, certains cours seront bâclés, on va aller à la hâte, et dans tout ça, l'étudiant qui va sortir de l'université, et ce sont tous eux-mêmes qui vont encore, n'est-ce pas, critiquer les niveaux de l'étudiant. Ils sont livrés sur le marché parce qu'à Véra, sur le marché, on va les trouver les directeurs de cabinet, les directeurs dans les entreprises, le ceci et le cela, et ce sont eux qui vont encore bloquer cet étudiant dont ils ont bâclé la formation.
Joachim Diana, vous êtes directeur de publication du journal L'Avenir. Le professeur, comme vient de le dire Joël Kadé-Danga, le professeur a étudié dans les bonnes conditions, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les choses étudier, ce n'est pas pour autant qu'il faut les populariser.
Non, tout à fait, il ne faut pas les populariser, mais aussi je vous dis que la plupart des ministres qu'on sort, ce sont des professeurs. On connaît des professeurs qui parlent beaucoup lorsqu'ils sont à l'université. Une fois responsabilisés, ils ne sont pas les meilleurs qui pensent aux autres, qui pensent aux autres professeurs et à la situation. Et je pense que le concret là, un peu effleuré, c'est qu'il faut qu'on éclaircisse la situation. Ou les professeurs sont totalement pris en charge par l'État, et lorsqu'ils grèvent, les parents n'ont rien perdu, ou ils sont d'un côté pris en charge par les parents, et de l'autre, l'État, et lorsqu'ils sont mis en contact de l'État, ils ont déjà pris l'argent des parents, et ils pénalisent les étudiants. Ce n'est pas normal, parce qu'aujourd'hui, ils savent très bien que gréver, c'est un chantage. Je peux même regretter le fait que le gouvernement soit toujours appelé à résoudre le problème après pression de grève. Je comprends ça parce qu'en fait, les professeurs qui sont aussi les hommes intégrés posent deux problèmes, par exemple, statut et paiement. Ils savent que améliorer le statut, c'est-à-dire, ça est un coût. Ça est un coût. Et en même temps, payer, ça est un coût. Ça serait plus élevé. Donc, vraiment, ne pas que résoudre un problème. Ou vous voulez le statut, ou vous voulez. Mais ils posent les deux problèmes à la fois. L'autre, on résout un, alors nous, tout simplement, si on ne fait pas l'autre. Et ils sont les premiers à connaître que l'économie du pays, tout ce qui est fait à l'université même. Il n'y a pas que le professeur, il y a les autres corps académiques.
Isaac Tiandakabouza, vous êtes journaliste à l'agence de presse Kitia Grand Lac à Kolozi au Katanga. Le professeur parle de la suspension, donc ils ont suspendu, mais ils n'ont pas levé la grève. Comment vous entrevoyez la suite?
C'est une bonne chose. Parce que la grève, c'est un droit reconnu à toute personne. Mais c'est déplorable de constater que même le système des sites commence à entrer dans notre université. C'est ainsi que, ici, chez nous, à Kolozi, les étudiants ont refusé catégoriquement. Parce qu'on avait un peu haussé les faits. Nos étudiants avaient refusé catégoriquement. Parce que les étudiants devaient payer 400 dollars. Voyez un peu. Les parents ne touchent pas ce montant-là. Moi, je crois que les professeurs doivent pousser l'accélérateur pour que leur situation change. Vous voyez, les primes-là, hein, pour les 4 mois, elles ne sont pas payées. Alors, ce sont les professeurs qui forment les intellectuels au niveau de notre pays. C'est regrettable quand un gouvernement qui est là, responsable, mais ce sont les particuliers, les peuples qui commencent à prendre la responsabilité du gouvernement.
Merci.
Hein, où est le rôle du gouvernement?
Isaac Kianda Kabouza, nous sommes à la fin de l'émission. Votre conclusion?
Ma conclusion, j'aimerais que le gouvernement puisse honorer les enseignants et aussi le gouvernement puisse faire un effort pour que les élections puissent s'organiser dans un délai constitutionnel.
Merci, Joël Kadé-Danga. Votre conclusion?
Ma conclusion, c'est d'inviter la classe politique congolaise à lire les signes de temps. Et il faudrait qu'on voie ce qui arrive dans le Maghreb et en Afrique ouest, en Afrique orientale, au lieu toujours de considérer comme si les choses seront les mêmes. La population n'est plus dupe, elle est bien éclairée.
Et Joachim Diana, conclusion.
Et tout à fait, je m'avais dit que ce n'est pas la première fois que l'opposition dit, vous savez, pendant toute la transition de Mobutu, on a dit le 5 décembre, ça va tomber. Tout cela a fait que, au lieu de s'occuper de l'essentiel, on s'occupait de choses accessoires. J'ai terminé aussi pour dire que les députés doivent savoir, tout le monde doit le savoir, que dans un système de séparation des pouvoirs, il n'y a pas d'injonction. Il y a des recommandations. Une recommandation, on peut la prendre en compte, tout comme on peut ne pas la prendre en compte. Mais il suffit d'expliquer.
Merci, c'est la fin de cette émission. Willem Lungamba était à la technique, Alain Hirung à la réalisation, assisté de Kéline Fouté sous la supervision de Pélékipéla Mondo, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.